Bonjour Bernard Lapassé.
Bonjour.
Vous êtes le coprésident du comité de candidature de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques en 2024. Aujourd'hui, vous allez remettre au CIO la troisième et dernière partie de ce dossier de candidature. Alors, c'est la dernière ligne droite avant la victoire?
Oui, c'était un marathon. Hein. C'était trois dossiers difficiles. Aujourd'hui, on a le sentiment que véritablement, on est allé au bout de ce qu'on peut faire de bien, de très bien, d'excellent même, je dirais, sur la partie préparation du dossier, en respect avec les règles de l'agenda 2020 du CIO. C'était important qu'on respecte la ligne qui était introduite par le CIO. Aujourd'hui, on est là, on est bien positionné, on est en dernière ligne droite, vous l'avez dit, et il nous restera maintenant à convaincre individuellement chaque membre du CIO.
Alors, plutôt confiant, en fait, hein, pour cette candidature. Les Jeux de 2012, je le rappelle, avaient été attribués à Londres. Paris avait perdu à l'époque. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui?
Je crois que la différence, c'est que nous sommes conscients qu'il y a, dans une candidature comme celle-là, la nécessité d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce moment où le dernier membre du CIO aura appuyé sur le bouton du vote. Il faut attendre ce moment-là pour connaître la victoire. Donc, pas de satisfecit à l'avance, pas d'arrogance. Gardons la ligne droite, mais gardons aussi les pieds sur terre, de façon à ce qu'on sache écouter maintenant les membres du CIO, qu'est-ce qu'ils ont à dire? On a vu les présidents des FI, on a vu tous les représentants sportifs, on a vu les médias étrangers maintenant, on va pouvoir aller voir chaque média étranger, c'est une nouvelle étape.
Alors ça, c'est le début de la campagne de promotion internationale, on va en parler un tout petit peu plus tard, mais dans la stratégie, qu'est-ce que vous avez adopté comme stratégie par rapport à 2005 où Paris avait perdu face à Londres?
Il y a deux points majeurs. Le premier, c'est qu'on a réussi à établir un principe sur lequel les athlètes sont devant. Ça fait partie vraiment d'un dossier porté par l'athlète, porté par les athlètes.
Pour les athlètes.
Pour les athlètes. C'est un véritable schéma là-dessus où on se retrouve sur le même discours, sur la même philosophie, sur les mêmes intérêts.
Et ces athlètes, alors petite parenthèse, c'est Marie-Amélie Le Fur, championne paralympique, et Teddy Riner qui sont notamment en première ligne, hein,
c'est
sûr, ça.
Bien sûr, eux sont en première ligne, mais aujourd'hui, par exemple, pour l'accueil des visiteurs et des journalistes étrangers, il y a à peu près 80 sportifs de très haut niveau qui sont là, chacun parlant des langues étrangères. On a montré la diversité qui excelle de la culture française sportive. Hein. On a des sportifs qui sont d'origine très diverse, et ça permet vraiment d'enrichir l'ensemble de la candidature sur la diversité dans laquelle on est et la force qu'on représente à l'étranger.
Est-ce qu'il y a eu aussi peut-être une organisation interne un peu plus rigoureuse, avec des réunions plus régulières, avec aussi ces athlètes qui portaient des messages différents dans les réunions d'athlètes, de comités d'athlètes?
Oui, le deuxième élément, c'est montrer l'unité dans laquelle nous sommes. Cette grande diversité, cette richesse qu'on a aujourd'hui dans le monde sportif français, c'est énorme. Quand on voit tous les événements que l'on reçoit, des champions du monde, des champions d'Europe, énormément, nous sommes le pays qui reçoit le plus d'événements internationaux.
L'Euro 2016 l'an dernier, le mondial de handball tout récemment.
Et c'est plein, ouais. et c'est complètement plein. Il y a vraiment beaucoup de monde, il y a beaucoup d'organisations suffisamment professionnelles pour montrer la qualité de ce qu'on est capable de produire. Tout ça sont des éléments qu'on a montrés au CIO. On a exprimer que cette recherche des Olympiques, c'est pas simplement pour le plaisir de fêter un centenaire. Non, c'est vraiment parce qu'on a aujourd'hui tous les outils qui nous conviennent et qui conviennent au CIO.
Et Paris qui avait accueilli pour la dernière fois les Jeux Olympiques en 1924. Alors face à Paris, deux autres villes sont en lice. Oui. On l'a entendu tout à l'heure, Budapest, et puis il y a Los Angeles. Alors qu'est-ce qui fait la plus-value de Paris vis-à-vis de ces deux concurrents?
Écoutez, on parlera pas de nos partenaires adversaires d'un jour, hein, qu'il
on
faut
peut
faire attention
encore,
là-dessus, on peut pas encore. Donc, faut faire attention. Simplement, ce qu'on sait, c'est qu'on est dans une ligne qui est pas la nôtre. On exprime une vraie identité Paris. C'est ça le plus important pour nous. D'exprimer à côté de ce qui se passera ailleurs, eh bien, nous permet que nous avons une force qui repose sur nos qualités, qui repose sur la référence des messages que l'on veut transmettre au monde et qu'on nous permet d'aborder sur des éléments qui sont forts dans la thématique d'une société d'aujourd'hui. Soyons au rythme de la vie et du monde aujourd'hui. Il évolue beaucoup. On voit des transformations partout dans tous les pays. Sachant que la France aujourd'hui est en mesure de produire quelque chose d'extraordinairement nouveau pour les jeunes générations et préparer la génération 2024.
Alors ça, c'est aussi la question de l'héritage des Jeux qui est centrale dans ce dossier de candidature. C'est que faire de ces Jeux de 2024 après 2024? C'est quoi la réponse?
La réponse, c'est tout de suite, on a heureusement la chance d'avoir 95% des équipements qui sont déjà terminés. Il nous reste trois équipements qui sont le village olympique, la piscine du nautique et le centre des médias. C'est peu de choses par rapport à la dimension de l'événement. Une Jeux Olympiques, c'est 41 championnats du monde organisés en même temps, 41 disciplines différentes, c'est-à-dire l'importance de l'événement. Aujourd'hui, tout est construit. Ces trois éléments-là sont aujourd'hui négociés avec les maires des villes pour utiliser dès à présent la succession après les Jeux. On sait aujourd'hui ce que l'on fera de ces équipements, quelle sera la dimension d'associations de ces villes à la population, de façon à ce que l'ensemble de ces outils soient mis à la disposition des usagers de chacune de ces communes, et en particulier, le village olympique, c'est 3000 logements qu'on mettra à disposition de la commune qui les recevra.
La valeur de l'héritage, donc, hein, qui est chère à Tony Estanguet, l'autre coprésident de ce comité de candidature. Vous parlez justement des infrastructures pour les gens, en fait, pour l'après-JO. Comment on mobilise la population autour d'un tel événement ?
Écoutez, j'ai fait le tour de France l'année dernière, presque un peu plus du tour de France, puisque j'ai rencontré tous les maires de France à peu près, les grandes métropoles. J'ai rencontré les présidents des conseils généraux, les présidents des régions, les membres d'Assemblée nationale, les groupements politiques d'Assemblée nationale. Bref, il faut informer l'ensemble des décideurs. Les décideurs sont dans tous les échelons. Leur montrer qu'on appelle les Jeux Olympiques à Paris, mais c'est pas qu'à Paris, c'est la région et c'est l'ensemble du pays.
Et c'est Marseille.
Et c'est Marseille. Aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont derrière ces candidatures de Jeux. On a vraiment aujourd'hui associé l'ensemble de la population française. C'est pas par hasard qu'on a 75% des Français aujourd'hui qui soutiennent la candidature.
Est-ce qu'on peut déjà miser sur une fréquentation importante ? Parce que quand on a vu les Jeux de Rio, le public n'était pas forcément présent partout.
Non, mais quand on voit, nous, les résultats d'accueil des gens dans les stades, hein, on parlait tout à l'heure de l'Euro, on a vu le championnat du monde de handball, beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent et on remplit systématiquement. Il y a un appétit fort pour le sport en France aujourd'hui. Ces Jeux ont incité l'ensemble des Françaises et des Français à se mobiliser pour assister à ces grands événements et de montrer qu'il y a une adhésion forte, non pas simplement aux médailles, mais au fait que le sport fait partie de la culture de notre société. Le vivre ensemble demain, ce sera une partie qui sera liée pour le sport. C'est un moyen extrêmement fort de rassembler des gens dans leur diversité et d'exprimer qu'à travers le sport, il y a la santé, l'éducation, la culture, bref, tout ce qui fait la référence de la vie de demain.
Et j'aimerais qu'on aborde également, vu que c'est un événement exceptionnel, la question du budget. Hein. Le prévisionnel s'élève à 3,6 milliards d'euros. Il y a 3 milliards d'investissements qui sont prévus. Est-ce que la France, tout simplement, a les moyens de s'offrir les JO ?
Oui, parce que cet argent-là, il est déjà dans un dispositif déjà stabilisé, puisque ces 3 milliards d'euros, ils seront essentiellement issus du secteur privé. Il y en a 1,3 milliard qui sont donnés par le CIO. Immédiatement, lorsque vous êtes reçu le 13 septembre à Lima, on aura le montant exact.
13 septembre, jour du vote.
Hein. Jour voilà, du vote, on sera fixé, quand on aura gagné, on sera fixé sur le montant donné par le CIO. C'est autour de 1,4 milliard. Et les deux autres qui restent, c'est la billetterie, et c'est le partenariat des partenaires. Voilà. Donc il n'y a pas d'investissement public, c'est uniquement un dispositif qui est lié. On dit les Jeux financent les Jeux.
Et malgré tout, il y a quand même 300 millions qui sont dans une espèce de réserve pour des aléas. Alors est-ce qu'on est sûr que le budget ne va pas s'envoler comme ça a été le cas par exemple à Pékin, Barcelone 92 aussi ou Sochi 2014, les Jeux les plus chers?
Oui, parce que ce qui se passe en dehors du COJO, c'est quelque chose qui est mesurable aujourd'hui parce qu'on a vraiment établi un protocole avec l'État, avec l'ensemble des communautés pour que nous puissions garder depuis un an et demi le même chiffre. Il a évolué très très peu. On est constant dans l'ensemble du dispositif, quelles que soient les modifications demandées par le CIO. Aujourd'hui, ces chiffres sont stables, ils sont responsables et permettront d'aller jusqu'au bout sans des éléphants blancs, comme on dit aujourd'hui.
Bernard Lapassé, très rapidement, il nous reste 30 secondes. On est entre nous, on discute, le slogan va être dévoilé ce soir. Qu'est-ce qu'il sera ce slogan ?
Il sera peut-être un peu surprenant par rapport à ce qui se dit, mais on aura, je pense, quelque chose d'assez chaud, d'assez fort. On ne peut pas le dire, effectivement, laissons la surprise puisque nos invités viennent. On va recevoir 150 journalistes étrangers. Il sera là, il sera beau, vous conseille de venir.
Quelle valeur ?
La valeur, elle sera ce que le public nous dira en retour. On verra comment ça se passe, mais j'ai confiance, vraiment.
Merci Bernard Lapassé, invité de RFI, co-président du comité de candidature Paris 2024.